Première épître à Timothée, chapitre 3, à partir du verset 6. Qu'il, c'est-à-dire le surveillant, qu'il ne soit pas nouvellement converti, de peur qu'étant enflé d'orgueil, il ne tombe dans la faute du diable. Or, il faut qu'il ait aussi un bon témoignage de ceux de dehors, afin qu'il ne tombe pas dans l'opprobre et dans le piège du diable. De même, il faut que les serviteurs soient graves, non doubles en parole, non adonnés à beaucoup de vin, non avides d'un gain honteux, gardant le mystère de la foi dans une conscience pure, et que ceux-ci aussi soient premièrement mis à l'épreuve, ensuite qu'ils servent, étant trouvés irréprochables. De même, que les femmes soient graves, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Que les serviteurs soient mariés d'une seule femme, conduisant bien leurs enfants et leur propre maison, car ceux qui ont bien servi acquièrent un bon degré pour eux et une grande hardiesse dans la foi qui est dans le Christ Jésus. Je t'écris ces choses, espérant me rendre bientôt auprès de toi, mais si je tarde, afin que tu saches comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'assemblée du Dieu vivant, la colonne et le soutien de la vérité. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, a été justifié en esprit, a été vu des anges, a été prêché parmi les nations, a été cru au monde, a été élevé dans la gloire.
Juste apporter quelques choses que nous avions vues la précédente fois. Nous nous sommes occupés la fois précédente des conducteurs dans les premiers versets. En particulier les qualités du verset 2, le serviteur sage, honorable, hospitalier. Nous avons vu que les conducteurs doivent être irrépréhensibles et ils ne peuvent pas l'être sans cette sagesse, la sagesse qui vient d'en haut. Nous avons vu quelques caractères de cette sagesse qui vient d'en haut. Nous avons lu le verset de Jacques 3, verset 17. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite paisible, modérée, traitable, pleine de miséricorde et de bons fruits, sans partialité, sans hypocrisie. Elle vient donc d'en haut et non de nous-mêmes. Elle est digne de Dieu parce que premièrement pure, puis paisible. Elle ne s'impose pas. Nous avons parlé de comment devenir ou être sage. Nous avons relevé trois points. Premièrement, nous avons à dépendre du Seigneur, à vivre dans sa crainte et sa dépendance. Nous le voyons en Job 28. Secondement, que l'esprit de sagesse et d'intelligence qui habite en nous ne soit pas attristé. Nous le voyons en Ésaïe 11. Et troisièmement, que la parole de Dieu habite en nous richement. Nous le voyons dans l'exemple de Salomon qui a demandé un cœur qui écoute. Nous avons ensuite parlé des deux caractères suivants, honorable. C'est celui qui cherche à faire honneur, qui cherche à faire honneur à notre Dieu. Et hospitalier, c'est celui qui aime l'étranger. Et tout cela nous montre que le surveillant montre déjà ses caractères dans sa propre maison. Nous le voyons au verset 4, conduisant bien sa propre maison, tenant ses enfants soumis en toute gravité. «
On pourrait peut-être ajouter quelque chose sur, sur ce caractère d'être hospitalier. On vient de dire que l'hospitalité, c'est l'amour pour l'étranger. Et non seulement le surveillant est appelé à avoir ce caractère, nous le voyons dans d'autres passages de l'Écriture, en particulier dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 13, ou bien dans la première épître de Pierre dans le chapitre 4. Et ces qualités nécessaires pour être un surveillant, et nous pouvons aspirer à la surveillance, un frère peut aspirer à la surveillance, c'est un désir que Dieu approuve, et donc il est nécessaire d'avoir des qualités, ce sont des qualités requises. Et la première qualité, comme nous venons de le rappeler, c'est irrépréhensible, irréprochable. C'est pour ainsi dire la qualité majeure qui englobe toutes les autres qualités. Le serviteur, nous l'avons lu aussi, est appelé à être irrépréhensible ou irréprochable. Et toutes ces qualités que Dieu nous présente pour qu'elles soient manifestées par les serviteurs, par les surveillants, nous sommes appelés, chacun de nous, aussi à les posséder. Il n'y a pas, dans l'assemblée de Dieu, il n'y a pas plusieurs niveaux. Nous sommes tous appelés à être irréprochables, autant les frères que les sœurs. Et c'est pour ça aussi qu'il nous est parlé dans 1 Timothée chapitre 3, non seulement des serviteurs, mais aussi des femmes des serviteurs. Alors la qualité d'être hospitalier, nous la retrouvons en particulier dans l'Ancien Testament. C'était une qualité que l'on retrouvait dans le peuple juif. Et nous savons que les Israélites accueillaient volontiers les étrangers. Pour en citer Abraham, par exemple. Et alors, si nous lisons attentivement ce qui nous en est dit dans l'Ancien Testament, nous voyons que ceux qui sont invités à entrer dans la maison, la première chose qu'on leur proposait, c'était le lavage des pieds. Et on proposait de l'eau pour le lavage des pieds. Et dans certaines maisons, il y avait des serviteurs ou des esclaves qui venaient pour laver les pieds. Et nous savons que le Seigneur a pris cette dernière place dans l'évangile de Jean au chapitre 13. Il s'est mis aux pieds de ses disciples. Et alors, nous voyons que le surveillant est appelé à être hospitalier. Et nous sommes tous appelés à être hospitaliers. Mais être appelé à être hospitalier, c'est-à-dire accueillir des invités, ça implique sans doute non seulement les accueillir dans l'affection fraternelle, mais aussi c'est apporter quelque chose à ceux qui sont invités. Nous souvenons par exemple que le Seigneur a appelé Zachée, il lui a dit « descends vite, Et le Seigneur désirait venir dans sa maison, dans la maison de Zachée. C'est-à-dire que le foyer chrétien, eh bien, c'est un lieu de repos. Et la première chose à laquelle nous pouvons penser, un surveillant qui est hospitalier, eh bien, il doit donner du repos à son invité. Il doit lui apporter des choses qui vont l'apaiser. Et il est important que dans les relations fraternelles, nous ayons à cœur cette hospitalité, mais c'est pour donner du repos à nos frères et à nos sœurs, et en particulier ceux qui ont besoin de goûter ce repos avec Dieu. Ce sont des relations en Christ. Ce ne sont pas des simples relations ou de bonnes relations. Et être hospitalier, c'est aussi apporter Christ aux âmes qui s'approchent dans nos maisons. Être hospitalier, c'est aussi offrir un abri. C'est-à-dire, un abri, c'est une halte réconfortante. Et non seulement du repos, mais aussi apporter de la consolation, du réconfort à ceux qui viennent dans nos maisons, dans le foyer chrétien. Que nous soyons tous, pour nos frères et sœurs, ces haltes réconfortantes. Et en particulier aussi, nous avons à accueillir les frères, en particulier, qui se consacrent au service du Seigneur et qui sont sortis donc pour le nom de Christ et dans le monde. Et de temps en temps, nous avons des frères et sœurs qui viennent ici dans l'assemblée. Eh bien, l'enseignement que nous trouvons en particulier dans la troisième épître de Jean, eh bien, c'est aussi de les accueillir dans nos maisons parce qu'ils sont sortis pour le nom. Ils sont sortis pour le nom de Christ. Être hospitalier, c'est donc avoir une maison ouverte. Et c'est l'endroit, au fond, où celui qui est hospitalier, il peut démontrer, manifester l'amour et l'attention pour tous les saints. Est-ce que nous avons des maisons ouvertes, des maisons hospitalières dans lesquelles nous manifestons et démontrons que nous avons de l'amour et de l'attention pour tous les saints?
On pourrait rappeler que en Timothée 3, voyons dans ces versets 1 à 7, nous avons les surveillants, comment ils ont à se conduire et à veiller sur le peuple de Dieu pour avoir l'ordre dans la maison de Dieu. Et dans les versets 8 à 13, nous avons les serviteurs, toujours pour qu'il y ait l'ordre de Dieu dans la maison du Père. On pourrait lire deux passages. D'abord 1 Corinthiens 14, le verset 40. Je ne sais pas, vous l'avez déjà lu. 1 Corinthiens 4, verset 40.
1 Corinthiens chapitre 14, verset 40. Et que toutes choses se fassent avec bienséance et avec ordre.
Et ensuite, on pourrait lire ce que l'apôtre Paul, à la fin de son ministère, pouvait dire aux anciens d'Éphèse. Donc, acte 20, le verset 28 à 32.
Acte chapitre 20, verset 28 à 32. Prenez donc garde à vous-même. et à tout le troupeau au milieu duquel l'Esprit Saint vous a établi surveillant pour paître l'assemblée de Dieu, laquelle il a acquise par le sang de son propre Fils. Moi je sais qu'après mon départ, il entrera parmi vous des loups redoutables qui n'épargneront pas le troupeau. Et il se lèvera d'entre vous des hommes qui annonceront des doctrines perverses pour attirer les disciples après eux. C'est pourquoi veillez, vous souvenant que, durant 3 ans, je n'ai cessé nuit et jour d'avertir chacun de vous avec larmes. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce qui a la puissance d'édifier et de vous donner un héritage avec tous les sanctifiés.
Donc il recommandait les anciens d'Éphèse à Dieu et à la parole de sa grâce. Donc nous voyons qu'il faut veiller sur soi-même, prendre garde à soi-même déjà. Dans ces versets 1 à 7, nous avons 7 caractères qui sont des caractères positifs et 4 caractères qui sont des caractères négatifs. Et donc, on va vous rappeler tout ce que la parole de Dieu nous dit, qu'il faut toujours voir l'autre dans la maison de Dieu.
Juste une remarque sur acte 20 qui vient d'être lu. Verset 28, comme vient de le rappeler notre frère Robert, prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau au milieu duquel l'Esprit Saint vous a établi surveillant pour paître l'assemblée de Dieu. Nous voyons que les surveillants sont au milieu du troupeau, ils ne sont pas au-dessus du troupeau. Et il faut prendre bien garde en particulier les frères qui aspirent à la surveillance, prendre garde qu'ils ne sont pas au-dessus du troupeau, mais ils sont au milieu du troupeau. Ce sont des frères comme les autres frères. Le Seigneur peut susciter, bien sûr, dans une assemblée des surveillants. Les surveillants ne sont pas nommés. Les surveillants sont appelés aussi ailleurs les anciens ou les conducteurs, et nous savons que ce sont 3 aspects différents des mêmes personnes. Et donc nous voyons, comme il vient d'être dit, que prenez donc garde à vous-même, et c'est pour ça que dans 1 Timothée 3 nous sont données toutes ces qualifications nécessaires pour être un surveillant. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau au milieu duquel vous avez été établi. Après ce caractère d'hospitalier, nous avons ce caractère propre à enseigner, c'est-à-dire des frères qui sont capables de transmettre la vérité. Et nous sommes capables, chacun de nous, frères en particulier, nous devrions être capables de transmettre la vérité si nous l'avons bien sûr reçue et si nous l'avons vécue par expérience personnelle. Recevoir la vérité, la connaître, eh bien cela nécessite bien sûr non seulement la recevoir mais la vivre. Et la vivre par expérience personnelle. Et nous voyons qu'un surveillant, il doit connaître la vérité. Et c'est indispensable. Pourquoi ? Parce que s'il veille sur le troupeau, eh bien, il y a peut-être certainement des jeunes ou des moins jeunes, frères, sœurs, qui désirent apprendre la vérité. Et c'est une bonne aspiration que ce désir de connaître la vérité. Et les surveillants, s'ils connaissent bien sûr la vérité, ils seront propres à l'enseigner. est propre à l'enseigner. Et donc, ce sera une chose bénie du Seigneur, puisque ainsi il pourra avoir cette croissance spirituelle dans l'Assemblée. Propre à enseigner, cela aussi veut dire qu'ils sont propres à la maintenir. Enseigner, c'est une chose, mais maintenir la vérité, en particulier quand elle est attaquée, eh bien, c'est une nécessité pour les surveillants qui veillent sur le troupeau de Dieu, qu'ils aient cette connaissance de la vérité pour la maintenir, pour la défendre. Et nous savons en particulier, je crois, il nous est dit dans l'épître de Jude, un verset qui est très important actuellement, au verset 3. Bien-aimés, quand j'usai de toute diligence pour vous écrire de notre commun salut, je me suis trouvé dans la nécessité de vous écrire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été une fois enseignée aux saints. Dans les temps actuels, il est de plus en plus nécessaire de comprendre la signification de tel verset, épître de Jude. Eh bien, nous sommes appelés non seulement à maintenir la vérité, mais combattre aussi pour la foi, pour la vérité, les vérités que nous avons reçues et qui ont été enseignées au sein. Et donc, un surveillant doit être capable de maintenir, de défendre la vérité, et c'est quelque chose qui est indispensable aujourd'hui.
On peut lire un passage dans Tite qui illustre bien ce que Michel vient de dire en partie. Vous voulez parler là aussi justement des anciens et des surveillants. Verset 9, tenant ferme la fidèle parole selon la doctrine, afin qu'il soit capable tant d'exhorter par un saint enseignement que de réfuter les contredisants. On a les trois facettes, ce qui est du personnel, individuel, tenant ferme la fidèle parole selon la doctrine, donc un ancrage dans la parole, dans ce que Dieu a révélé de sa pensée, et qui est pratiqué, et qui sert alors de base, si on peut dire, c'est le réservoir où le surveillant peut puiser ce qui est nécessaire, aussi bien pour exhorter par un saint enseignement que pour réfuter les contredisants. Et puis alors, sur cette aptitude, cette capacité d'enseigner, il y a un point sur lequel il ne faut pas s'en tromper. Si je peux dire les choses comme ça, un peu en caricaturant, c'est pas parce qu'on est enseignant dans son métier professionnellement qu'on est qualifié pour enseigner dans l'Assemblée. Pourquoi ? Parce qu'il y a besoin du secours de l'Esprit. Dans Jean 14, le Seigneur dit aux disciples, verset Jean 14, 25, « Je vous dis ces choses, demeurant avec vous, mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera toutes choses et vous rappellera toutes ces choses que je vous ai dites. » On a deux niveaux de lecture de ce verset. On a un premier niveau qui est le Seigneur s'adressant aux disciples réunis autour de lui, qui vont avoir la charge, une fois qu'ils auront quitté la terre, qu'ils seront montés au ciel, de transmettre, en particulier les évangiles, ce qui est devenu les évangiles, ce qui est devenu les contenus des épîtres, de transmettre tout ce qu'ils ont appris du Seigneur. Et tout ce qu'ils ont appris du Seigneur, comment ils pourront le mettre en mots par écrit ? L'Esprit Saint vous rappellera toutes les choses que je vous ai dites. Et puis l'Esprit Saint vous enseignera toutes choses. Pour être capable d'enseigner, il faut être dépendant de l'Esprit Saint. Et si je peux juste préciser là un aspect, Je me souviens d'un frère qui est près du Seigneur maintenant, qui me disait une fois, il y a longtemps de ça, on peut enseigner des choses tout à fait exactes et les dire d'une manière où ça ne passe pas du tout. Et la manière dont il me disait ça, j'ai senti que c'était du vécu, du expérimenté personnellement. D'occasion où peut-être il avait constaté lui-même, apportant un enseignement qui était juste, mais la façon de le dire ne passait pas. Alors ne passait pas, c'est beaucoup de choses. Je ne peux pas parler de la même manière à un enfant, à un adolescent, ou à des frères et des sœurs d'âge mûr. La manière de présenter les choses, la même chose, va être différente. Dans une assemblée comme les Corinthiens ou comme les Galates, la manière dont Paul s'adresse à eux n'est pas du tout la même que comme il peut s'adresser aux Éphésiens, aux Colossiens ou aux Philippiens. L'état de l'assemblée, l'état de la personne, l'âge spirituel, l'âge naturel, l'âge spirituel, le sujet qu'on aborde, tout cela demande différentes manières de dire, au fond, la même chose. Et dans cette capacité d'enseigner, il y a ce registre. Je crois qu'il faut s'y arrêter, ça vaut la peine de s'y arrêter, parce que c'est sans profit d'avoir énoncé des vérités si elles ne peuvent pas être reçues, si elles ne peuvent pas être comprises, si elles heurtent, si elles ne sont pas préparées, ne trouvent pas un terrain préparé par d'autres choses qu'il faut peut-être dire avant. Voilà. Capable d'enseigner, c'est un domaine très vaste et qui demande surtout, la chose importante, une grande dépendance d'Esprit Saint.
Suite à ce qui vient d'être dit, on peut lire dans 2 Timothée chapitre 4. Verset 3, il y aura un temps où ils ne supporteront pas le saint enseignement. Mais ayant des oreilles qui leur démangent, ils s'amasseront des docteurs selon leur propre convoitise et ils détourneront leurs oreilles de la vérité et se tourneront vers les fables. C'est juste un complément à ce qui vient d'être dit, qui est absolument exact. Il y a d'un côté le surveillant qui doit être capable d'enseigner et d'être dépendant de l'Esprit Saint pour apporter au moment voulu ce que l'Esprit Saint désire que soit présenté dans l'assemblée, par exemple. Il y a l'autre côté, c'est-à-dire ceux qui écoutent. C'est-à-dire aussi, ceux qui écoutent, ils doivent être dans l'état moral qui convient pour recevoir les choses que l'Esprit Saint conduit à présenter. Donc, il y a la responsabilité, bien sûr, de l'enseignant, qui doit être dépendant du Seigneur et de l'Esprit Saint. Il y a aussi la responsabilité de ceux qui écoutent, comme il nous est dit en particulier dans les chapitres 2 et 3 de l'Apocalypse. On peut lire un verset qui revient à plusieurs reprises. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux assemblées. Donc il y a non seulement la responsabilité de l'enseignant, mais il y a la responsabilité de celui qui écoute. Et alors, ce que nous venons de lire aussi dans 2 Timothée 4 au verset 3, nous voyons que dans un temps de ruine, ce que nous présente donc la deuxième épître à Timothée, eh bien, il y a un temps où on ne supporte pas le saint enseignement. Et il nous est dit que les oreilles qui leur démangent, et ils préfèrent s'amasser des docteurs selon leur propre convoitise. Et ils détournent leurs oreilles de la vérité et se tournent vers les fables. Donc, juste pour souligner en complément
que nous sommes peut-être dans un temps où maintenant on a des difficultés à supporter le saint enseignement. L'autre qualification que nous trouvons dans 1 Timothée 3, c'est « le surveillant ne doit pas être adonné au vin ». Et nous savons qu'il y a un danger, non seulement pour le vin, actuellement c'est un danger de ce qu'on appelle les addictions. Et ici, il nous est parlé d'être adonné au vin, donc de l'addiction au vin. Et pourquoi cette mise en garde pour le surveillant de ne pas être adonné au vin? Eh bien, le problème des addictions, c'est de l'addiction au vin en particulier, eh bien, cela entraîne un manque de maîtrise de soi. Je pense qu'ici, tout le monde a vu quelqu'un qui a bu excessivement. Il suffit d'aller dans les rues. N'importe lequel d'entre nous a pu constater cela. Eh bien, le manque de maîtrise de soi, le manque de contrôle de soi ne convient pas à un surveillant, mais il ne convient pas non plus à chacun de nous. Et comment être utile dans l'assemblée? Eh bien, si nous n'avons pas une maîtrise de nous-mêmes, et non adonné au vin, si on peut lire aussi dans les proverbes, je crois que c'est proverbe 31, sauf erreur, où il est parlé du danger de l'abus. Proverbe 31, versets 4 et 5. Ce n'est point au roi, Lémuel, ce n'est point au roi de boire du vin, ni au grand de dire où sont les boissons fortes, de peur qu'il ne boive et n'oublie le statut et ne fasse fléchir le jugement de tous les fils de l'affliction. Le vin nous est présenté ici pour les rois, donc pour ceux qui dominent d'une manière générale. Eh bien, les rois ne devaient pas boire de vin pour garder un saint jugement des choses. Et nous savons que, comme chrétiens, comme enfants de Dieu, nous sommes des rois et des sacrificateurs. Et nous sommes établis par Dieu et grâce à Dieu. Nous sommes des rois et des sacrificateurs, et donc l'abus de boissons fortes, l'abus de vin, eh bien ça peut entraîner un mauvais jugement des choses. Et donc le surveillant ne doit pas être adonné au vin, il doit avoir cette maîtrise de soi, il doit avoir ce contrôle de lui-même pour pouvoir juger les choses ou éprouver les choses selon Dieu.
Ne soyez pas remplis de vin. Ça, c'est déjà, nous le retrouvons aussi en Tite, nous le trouvons ici, et aussi que le surveillant ou le serviteur ne soyez pas remplis de vin. Et comme dit Éphésiens 4, 18, soyez remplis de l'Esprit. Non pas de vin. Et je ne me rappelle plus le passage, je crois que c'est Osée 4, verset 11, où il en est question. On va peut-être lire Osée 4, verset 11.
Osée chapitre 4, verset 11. La fornication et le vin, et le mou ôte le sens.
Le vin ôte le sens.
Continuer Donc, le surveillant, il doit être non batteur. Non batteur, c'est non bagarreur. C'est-à-dire qu'un surveillant ne doit pas être une personne violente. Et on peut être violent en voulant imposer ses idées, imposer ses propres idées. Et on peut même avoir comme ressource l'intimidation. Et donc, c'est non batteur, non bagarreur. Je ne sais pas s'il y a une allusion au fait que, au danger des violences conjugales, mais autant que je me souvienne, c'est peut-être qu'on peut certainement appliquer le passage aussi, non batteur, pas de violence conjugale, mais c'est, je crois que la signification profonde, c'est non bagarreur, ne pas utiliser l'intimidation pour imposer ses idées. Et donc, c'est pour ça qu'il nous est dit, mais doux, ensuite. Et bien sûr que la douceur nous rappelle la douceur du Seigneur. Je suis doux et humble de cœur. Et nous avons devant nous, dans les relations fraternelles, aussi la douceur, non seulement pour le surveillant, pour le serviteur, ou bien sûr les sœurs, bien sûr, mais nous avons à avoir dans nos relations cette douceur. Nous n'avons pas à imposer nos idées. Et il y a aussi un verset dans les Proverbes, on peut lire Proverbe 25, verset 15. « Par la lenteur à la colère, un prince est gagné, et la langue douce brise les os. » Et c'est un beau verset, celui-ci, que un prince peut être gagné par quelqu'un qui est lent à la colère, par sa douceur. Et il est ajouté même que la langue douce, c'est-à-dire prononcer des paroles de douceur, eh bien, la langue douce brise les os, c'est-à-dire brise peut-être la dureté de nos cœurs. Encore un passage de Timothée 2, qui nous est dit à la fin du verset 22, évite les questions folles et insensées, sachant qu'elles engendrent des contestations. Et il ne faut pas que l'esclave du Seigneur conteste, mais qu'il soit doux envers tous, propre à enseigner, et ayant du support, enseignant avec douceur les opposants, attendant si Dieu peut-être ne leur donnera pas la repentance pour reconnaître la vérité. Et nous voyons que les difficultés que nous pouvons rencontrer dans un temps de ruine, on nous parle encore la deuxième épître à Timothée, pouvons rencontrer donc des contestations, des questions surprenantes, des questions folles, insensées, mais il nous est dit qu'il faut être doux envers tous, propre à enseigner, mais il nous est dit d'enseigner avec douceur les opposants, attendant si Dieu peut-être ne leur donnera pas la repentance pour reconnaître la vérité. Encore un passage qui est précieux, 2 Corinthiens chapitre 10. 2 Corinthiens 10. Or moi-même, Paul, je vous exhorte par la douceur et la débonnaireté du Christ. Nous savons que l'apôtre Paul a rencontré beaucoup d'opposition et qu'il a eu beaucoup de combats, mais il avait devant lui la douceur et la débonnaireté du Christ. et il désirait suivre cet exemple dans ses combats et agir donc avec des armes non pas charnelles, mais puissantes par Dieu. Et la douceur et la débonnaireté du Christ est sans doute une arme que nous devons utiliser quand il y a de l'opposition.
L'Épître à Tite, chapitre 1, versets 6 à 9.
Épître à Tite, chapitre 1, chapitre 1, versets 6 à 9. Si quelqu'un est irréprochable, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qu'il ne soit pas accusé de dissipation ou insubordonné. Car il faut que le surveillant soit irréprochable comme administrateur de Dieu, non adonné à son sens, non colère, non adonné au vin, non batteur, non avide d'un gain honteux, mais hospitalier, aimant le bien, sage, juste, pieux, continent, tenant ferme la fidèle parole, selon la doctrine, afin qu'il soit capable tant d'exhorter par un saint enseignement que de réfuter les contredisants.
Il faut que le surveillant soit un modèle. On peut aussi lire beaucoup de paroles qui traitent sur ce sujet. Il y a aussi l'apôtre Pierre, lui, il pouvait écrire en chapitre 5, 1 Pierre 5, on peut lire les quatre premiers versets, 1 Pierre 5, 1 à 4.
Première épître de Pierre, chapitre 5, versets 1 à 4. J'exhorte les anciens qui sont parmi vous, moi qui suis ancien avec eux et témoin des souffrances de Christ, qui aussi est part à la gloire qui va être révélée. Paissez le troupeau de Dieu qui est avec vous, le surveillant, non point par contrainte, mais volontairement, ni pour un gain honteux, mais de bon gré, ni comme dominant sur des héritages, mais en étant les modèles du troupeau. Et quand le souverain pasteur sera manifesté, vous recevrez la couronne inflétrissable de gloire.
Après « non bagarreur », il nous est dit « non querelleur ». Je pense que c'est assez proche, les deux caractères. Un surveillant, donc, n'est pas querelleur. Cela veut dire qu'il est connu pour éviter les conflits et les apaiser. Et nous savons que, après l'expérience que nous pouvons avoir chacun, qu'il y a toujours des personnes qui cherchent la controverse ou la dispute. Eh bien, un surveillant est sans doute très utile dans une assemblée, un ancien, un conducteur, quand il cherche à éviter les conflits et à les apaiser. Il cherche à apaiser les tensions. N'aimant pas l'argent, il nous est dit. Et donc, il est plutôt connu comme une personne qui donne libéralement son argent, plutôt que d'essayer d'amasser de l'argent. N'aimant pas l'argent, c'est sans doute une des grandes idoles actuelles dans le monde, la course à l'argent. Eh bien, un surveillant, l'apôtre nous dit qu'il ne faut pas qu'il aime l'argent, et au contraire, donner libéralement. Et l'argent est un danger pour chacun de nous. L'apôtre Jean nous dit bien d'être gardé des idoles. Le Seigneur nous a parlé de Mammon. Mammon, c'est une idole aussi, c'est l'argent. Et veillons, chacun de nous, bien sûr, à ne pas tomber dans ce piège.
On peut relever que pour le surveillant, là, il est parlé de n'aimant pas l'argent. pour le serviteur, il est dit « non avide d'un gain honteux ». Et puis à la fin de cette épître, Paul doit encore mettre en garde, verset 5 à la fin, il parle de personnes qui estiment que la piété est une source de gain. Les choses, si on prend les trois expressions ensemble, au chapitre 6, verset 5, on a les versets suivants, des détails encore, certains aspects de ce côté-là, on peut dire encore le verset 9, « Ceux qui veulent devenir riches tombent dans la tentation et dans un piège. » Et si on prend ces trois facettes, c'est au fond, elles mettent le doigt sur le danger qu'il y a autour de l'argent, qui peut être aussi bien, comme il est parlé, avide d'un gain honteux, déjà avide d'un gain tout court, sans honteux, c'est déjà problématique, mais si en plus ce gain est honteux, c'est-à-dire malhonnête, on sent toute la profondeur qu'il peut y avoir là dans le danger. N'aimant pas l'argent, c'est un degré moindre, déjà. C'est n'aimant pas l'argent. L'argent est une nécessité de la vie pour acheter, vendre, pour vivre. Et puis, ça ne dépasse pas ce cadre-là. Et puis, le chapitre 6, qui estime que la piété est une source de gain. Si on transpose ce verset dans l'application, dans les chapitres qu'on a là, être surveillant pourrait être une source de gain. Être serviteur pourrait être une source de gain. C'est quelque chose qu'on voit malheureusement dans la chrétienté, de personnes qui se prétendent conducteurs et qui le sont pour encaisser de l'argent du troupeau, entre guillemets, qu'ils prétendent conduire. Des choses très solennelles.
Juste la signification, non avide d'un gain honteux. Nous savons que, à propos des serviteurs, nous savons que dans Acte 6, donc, il nous est parlé des serviteurs, des diacres, parce que Acte 6, il nous est parlé dans les 6 premiers versets, donc, d'un murmure qui s'était élevé de la part des hellénistes contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans le service journalier. Alors de quoi il est ajouté, il ne convient pas que, laissant la parole de Dieu, nous servions aux tables. Alors il s'agissait ici, dans Acte 6, donc des dons en nature ou des dons en argent, qui était donné donc pour qu'il soit réparti, qu'il soit distribué. Et Acte 6, c'est l'exemple, le grand exemple des serviteurs qui sont choisis et nommés par l'Assemblée. Et nous voyons donc que des serviteurs peuvent être appelés à s'occuper des collectes. Et donc, il semble qu'il y ait un rapport entre le gain honteux et Acte 6, c'est-à-dire quand on s'occupe des collectes, de la répartition des collectes, de ce qui nous en est dit ici, Acte 6 et 1 Timothée 3, il y a toujours le danger, bien sûr, d'avoir ce mauvais désir dans le cœur de s'enrichir, et d'avoir ce gain honteux. Et donc, la sagesse, dans Acte 6, la sagesse a été de nommer des frères pour un tel service de la répartition des dons, et bien à des frères donc qui étaient sages et à qui on pouvait confier un tel service. C'était donc, ils n'avaient pas l'obsession de gagner de l'argent à tout prix.
De l'argent, le gain honteux, au chapitre 6, versets 5 à 19, nous parle de l'argent.
Peut-être juste à propos de l'argent, je voudrais. On connaît tous la parabole du jeune homme riche. Peut-être pour nos jeunes, ça peut être aussi parlant. L'argent, c'est aussi les biens, c'est ce qu'on possède. Et en opposé, c'est ce qu'on ne possède plus. Je lirai juste quelques versets. Donc Marc 10, verset 21. Il y a eu les premiers échanges entre le jeune homme et le Seigneur. Une chose te manque. Va, vends tout ce que tu as et donne aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Et viens, suis-moi, ayant chargé la croix. Et lui, affligé, le mot est fort, affligé, de cette parole s'en alla tout triste. Qu'est-ce que c'est, combien ça peut nous parler, à quoi on peut laisser notre cœur, et l'argent est bien un piège très fort.
C'est pour ça qu'on peut lire aussi dans Matthieu 6, un passage qui correspond bien à ce qui vient d'être lu. Acte 6, verset 20, verset 19. « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille gâtent, et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où ni la teigne ni la rouille ne gâtent, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Où est notre trésor? Est-ce que nous avons notre trésor sur la terre, ou est-ce que notre trésor, c'est Christ dans le ciel?
Et en Proverbe 30, des paroles d'Agur, verset 7, « Je te demanderai deux choses, ne me les refuse pas avant que je meure. Éloigne de moi la vanité et la parole de mensonge. Ne me donne ni pauvreté ni richesse. Nourris-moi du pain qui m'est nécessaire, de peur que je ne sois rassasié et que je ne te renie et ne dise qui est l'Éternel, et de peur que je ne sois appauvri et que je ne dérobe et que je ne parjure le nom de mon Dieu. »
À propos des paroles d'Agur, qui voulait ni richesse ni pauvreté, on comprend bien ces expressions. Mais si nous lisons dans le Nouveau Testament, nous voyons que l'apôtre Paul emploie des mots assez différents. Dans l'Épître aux Philippiens, au chapitre 4, il nous est dit, au verset 12, « Je sais être abaissé, je sais aussi être dans l'abondance. Et en toutes choses et à tous égards, je suis enseigné, aussi bien à être rassasié qu'à avoir faim, aussi bien à être dans l'abondance qu'à être dans les privations. Je puis toutes choses en celui qui me fortifie. » Nous comprenons absolument les paroles d'Agur qui nous sont rapportées dans l'Ancien Testament, mais on a souvent comparé ces paroles d'Agur avec les paroles qui nous sont données par l'apôtre Paul dans les Philippiens. Eh bien, lui, il ne demandait pas d'être ni dans les richesses ni dans la pauvreté. Eh bien, une autre tendance, ce serait peut-être d'avoir ces paroles d'Agur dans notre bouche aussi. Mais l'apôtre Paul, il savait être abaissé, il savait être dans l'abondance, et il apprenait, qu'il soit dans l'abondance ou dans les privations, il apprenait au pied du Seigneur toute leur signification.
Ce qui est utile à retenir dans les paroles d'Agur, c'est au fond les conséquences. Comment je gère la pauvreté ou l'abondance si je ne fais pas intervenir Dieu? Si je fais intervenir, je le prends horizontalement, un peu dans l'esprit du livre d'Ecclésiaste, sous le soleil, ben voilà, dans un cas je peux murmurer, dans l'autre cas je peux oublier que cette abondance vient de Dieu. Paul dit aussi, un peu dans les versets que Robert a cités tout à l'heure, a mentionné au chapitre 6, Mais ayant la nourriture et de quoi nous couvrir, nous serons satisfaits. 6, verset 8. Où au fond, c'est cette piété avec le contentement, les choses comme Dieu les donne, et pas aspirer à autre chose que Dieu donne, et pas non plus murmurer de ce que Dieu donne. Et en ce sens-là, le n'aimant pas l'argent montre bien ce côté où est attaché le cœur. Qu'est-ce qui compte pour le cœur ? L'argent est un outil nécessaire, utile. La collecte pour l'œuvre, c'est un outil utile. La nourriture dont on a besoin dans le quotidien, c'est un outil nécessaire. Le salaire, l'ouvrier a droit à son salaire, c'est l'expression que la parole utilise aussi. Mais voilà, le cœur est attaché à quoi ? Dans notre cœur, il y a forcément une hiérarchie, des choses qui sont importantes. Et là, au bout, des choses qui comptent pour rien. Paul parle de choses qu'il a comptées comme des ordures. C'est plus alors au chapitre 2 là, des Philippiens, ça concerne plus ce qui était sa position comme juif, comme pharisien, comme de la tribu de Benjamin, etc. Toutes ces choses-là. Mais on peut l'appliquer dans les choses du quotidien. Qu'est-ce qui compte et qu'est-ce qui est au fond que pour un temps, que pour la pratique du quotidien, n'aimant pas l'argent. L'accent est à mettre sur le n'aimant pas l'argent. Comme dans le cas du serviteur, il y a le mot avide qui est très fort, et puis le honteux.
C'est...